Vous écoutez France Culture.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grand à Moudre. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Une émission préparée par Fanny Richet, Mélanie Chalandon, Céline Leclerc, Mina Fézy, réalisée par Jean-Christophe Francis, à la prise de son, Bruno Gagnard-Fontanille. Nommé en octobre 2013, démissionnaire en juin 2014. Alain Boissineau n'aura pas fait long feu à la présidence du Conseil supérieur des programmes, conseil mis en place par l'ancien ministre de l'Éducation nationale, Vincent Peillon. Celui qui devait piloter la refonte des programmes scolaires à l'horizon 2016 a préféré renoncer devant l'ampleur de la tâche. Trop de divergences entre partisans d'une école des connaissances et défenseurs d'une école des compétences. Les deux notions ne sont pourtant pas censées être contradictoires. Elles cohabitent depuis 2005 et la loi Fillon au sein du socle commun des connaissances et des compétences. Celui-ci définit ce que chaque élève doit au moins maîtriser en sortant du collège, c'est-à-dire à la fin de sa scolarité obligatoire. Alors le socle a-t-il fait ses preuves jusque-là ? Manifestement pas, si l'on en juge par le niveau actuel des inégalités scolaires, d'où la nécessité d'une réécriture. Mais c'était compté sans la résurgence de vieilles oppositions qu'on croyait appartenir au passé. D'un côté, donc, ceux qui considèrent que le collège, puisque c'est à ce niveau que les dissensions se jouent, est avant tout un lieu d'accumulation de savoir, un sas d'entrée vers le lycée et les études supérieures. De l'autre, ceux qui estiment que ce même collège doit enseigner, dans la continuité de l'école primaire, la mise en pratique des connaissances pour une meilleure adaptation au monde extérieur. Alors bien entendu, cette façon de présenter les choses n'échappe pas à la caricature, mais la démission d'Alain Boissineau montre que les divergences brièvement exposées sont encore d'actualité. Alors, programme scolaire, faut-il choisir entre connaissances et compétences ? C'est notre sujet du jour. Et ils seront trois ce soir pour en discuter. Céline Valkoviak, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeure de français au collège de Losangoël dans le Pas-de-Calais. Vous accompagnez différents établissements de la région dans la mise en place du socle commun. Et vous avez publié l'an dernier avec Francis Blancard, « Réussir l'école du socle en faisant dialoguer et coopérer les disciplines ». C'est publié chez ESF Éditeur, une coédition d'ailleurs avec les cahiers pédagogiques qui sont dirigés par Philippe Mérieux. Pour discuter avec vous ce soir, Julien Gauthier, bonsoir.
Bonsoir.
Professeur de philosophie dans l'Oise, vous avez cofondé, vous dirigez toujours, la revue Scolé.fr. FR, penser et repenser l'école. Alors, scolé, c'est la racine grecque du mot école. Mais à l'origine, ça ne voulait pas dire spécifiquement école.
Non, la signification étymologique, c'est, enfin, originale en grec, c'est temps libre.
Scolé. Loisir. Scolé, c'est une connaissance que devraient, par exemple, avoir tous les élèves à la fin du collège. C'est-à-dire, en tout cas, la connaissance de ce mot, de ce qu'il signifie et de comment il a formaté, justement, le mot école aujourd'hui.
Ce qui serait surtout souhaitable, c'est que l'école elle-même soit davantage, en effet, un lieu de temps libre et d'études et d'apprentissage que ce ne l'est actuellement.
On va avoir l'occasion justement d'en discuter. Notre troisième invité se trouve en duplex des studios de France Bleu à Dijon. Il s'agit de Marie Durubella. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur à Sciences Po, sociologue spécialiste des questions d'éducation. Parmi vos nombreuses publications, je noterai celle-ci, Les sociétés et leur école, avec François Dubé et Antoine Verretou, publié au Seuil, mais il y a d'autres références sur notre site internet. Alors, si vous êtes d'accord tous les trois, on va commencer de manière peut-être un petit peu traditionnelle, en tout cas ça ne vous étonnera pas, vous qui êtes amené à enseigner, par des définitions, puisqu'il faut aussi savoir de quoi l'on parle quand on parle de socle commun, des connaissances et des compétences, et de culture d'ailleurs. Il faudra préciser qu'aujourd'hui dans le socle commun, il y a aussi cet aspect culture. Mais d'abord, qu'est-ce qu'une connaissance et qu'est-ce qu'une compétence ? Marie Durubella, tiens, c'est à vous que je pose cette première question. Comment est-ce qu'on peut définir ces deux notions ?
Étant sociologue, je ne suis pas particulièrement compétente pour définir les... Il faut voir ce que la société attend de l'école. Et elle attend de l'école, si on prend l'exemple des langues étrangères, par exemple, que les élèves puissent parler une langue étrangère et la comprendre. Ceci suppose évidemment des connaissances, mais aussi la capacité à les utiliser pour se faire comprendre, justement. Donc, ce montre bien, cet exemple tout bête, hein, montre bien que dissocier savoir et compétences dans un certain nombre de cas, sans doute pas tous, ça n'a pas de sens.
Donc sans connaissances, on peut dire qu'il n'y a pas de compétences possibles. Je ne sais pas si vous avez entendu le début de ma question. C'est ça, c'est-à-dire pas de compétences sans connaissances au préalable. On pourrait résumer ça comme ça.
Et réciproquement, c'est-à-dire qu'on peut se demander quel serait le sens. Alors, justement, c'est là le cœur, je pense, des divergences que vous évoquiez dans l'introduction. C'est-à-dire que les savoirs, théoriquement, ont un but de compétences. Enfin, ça rend capable de faire des choses, mais on peut aussi contempler les savoirs, apprécier les savoirs en eux-mêmes. Et certains vont défendre ce point de vue, alors que tous ceux qui s'intéressent à la fonction sociale de l'école, et évidemment les sociologues au premier chef, vont être davantage sensibles aux besoins de l'élève, justement pour mener sa vie, et pas simplement pour contempler des savoirs.
Alors pour rester sur ce diagnostic préalable, Julien Gauthier, est-ce qu'on peut dire, est-ce que vous seriez d'accord en tout cas pour dire qu'a priori, en tout cas, il n'y a pas forcément de contradiction et d'antinomie entre la notion de connaissance et la notion de compétence. Les deux peuvent aller ensemble.
Ah oui, à mon avis, elles peuvent aller ensemble et elles doivent aller ensemble. Et je pense que la résurgence de cette opposition, si c'est bien ça qui a conduit à la démission de M. Boissineau, c'est fort dommage parce que je suis tout à fait d'accord avec Mme Durubella pour dire que, en tout cas, dans le cas des apprentissages scolaires, on ne voit pas ce que serait une connaissance qui ne développerait pas des compétences, et on ne voit pas ce que seraient des compétences qui ne se développeraient pas sur la base d'un contact avec des contenus scolaires, c'est-à-dire des savoirs.
Céline Valkoviak.
Oui, moi j'aurais défini la compétence comme la mobilisation des connaissances, des savoirs de façon plus générale. Donc bien sûr des connaissances, mais aussi des savoir-faire, des savoir-être, des stratégies. Pour moi, disons que ce que ça a apporté pour nous dans notre enseignement au quotidien, c'est un plus, parce que transmettre des connaissances, on le faisait, mais construire les compétences, c'est-à-dire apprendre nos élèves à les utiliser, c'est peut-être ça qui a été finalement la nouveauté.
Ça, c'est une évidence qui n'était pas aussi évidente que ça il y a quelques années. Il a quand même fallu le mettre en œuvre. Et peut-être qu'il y a encore du travail à faire d'ailleurs à ce sujet.
Oui, tout à fait. Parce que le problème de la mobilisation des connaissances, notamment par exemple dans des situations complexes, parce qu'on voit bien qu'à la notion de socle a été associée cette notion de complexité. Le problème, c'est que les situations complexes sont rarement juste disciplinaires. Et donc concrètement, au collège, ça pose le problème du cloisonnement disciplinaire et d'aider l'élève à faire des liens entre les savoirs d'une discipline à l'autre. Elle est là la difficulté de mise en œuvre. C'est qu'on est 10 ou 12 finalement à prendre en charge les enseignements d'un élève.
Alors vous allez justement nous expliquer comment vous avez essayé de mettre en œuvre ce décloisonnement et à quelle résistance vous vous êtes heurté. Mais je dois dire qu'alors par rapport à vos premières prises de parole aux uns et aux autres, je suis un peu surpris finalement par ce que vous dites. C'est vrai qu'il y a une évidence à se dire il n'y a pas de raison de séparer d'un côté les connaissances, d'un côté les compétences. Sauf que malgré tout, surprise, Alain Boissineau, ancien président désormais du Conseil supérieur des programmes, démissionne en disant c'est extrêmement difficile aujourd'hui de dépasser les polémiques sur cette différenciation entre une école des compétences et une école des connaissances. Marie Durubella, est-ce que vous avez été surprise par les motivations de cette démission? Comment se fait-il qu'on en ait encore à débattre de ça aujourd'hui en France?
Je pense qu'on en débat encore parce qu'effectivement, il n'y a pas de consensus sur cette question, notamment de la part des enseignants. Les enseignants sont dans une position délicate puisqu'ils ont été sélectionnés parce qu'ils étaient des experts en matière de savoir. On ne les forme pas d'ailleurs à autre chose. C'est des experts en matière de savoir. Il n'y a pas de discussion là-dessus. Et donc, on leur dit, ah oui, mais le savoir, ce n'est pas tout. Il faut essentiellement le mettre en œuvre. Est-ce que ce n'est pas un autre métier qu'on leur demande? Justement, c'est un peu la question qu'ils peuvent se poser. Et nombre d'entre eux se disent que ainsi, on change subrepticement le rôle de l'école. Le rôle de l'école n'est plus d'instruire les élèves en leur inculquant des savoirs, les préparer à autre chose qui est hors de l'école, qui est la vraie vie, si on peut dire. Et donc, ils peuvent se sentir, certains d'entre eux en tout cas, relativement dépossédés. Donc, ça leur pose un vrai problème statutaire, corporatisme. Ce n'est pas un mot honteux que le corporatisme, que de reconnaître que finalement, les compétences, c'est essentiel.
Ce sentiment de dépossession, vous le constatez, vous, Julien Gauthier ?
Alors moi, je ne le constate pas au niveau du lycée, puisque finalement, la logique des compétences a pour le moment été très peu introduite à ce niveau-là du secondaire.
Parce que c'est jusqu'à la fin de la scolarité obligatoire, c'est-à-dire 16 ans, donc en gros, la fin du collège, quoi.
Oui, c'est ça, la fin du collège. Mais en revanche, oui, c'est sûr que je crois qu'il faut, reconnaître qu'on a là un tournant quand même, un changement de paradigme éducatif qui ne date pas d'il y a 5 ou 10 ans et qui est un changement mondial en plus. Hein. Donc la logique des compétences, le vocabulaire même des compétences, ça ne sort pas nulle part. Ça sort quand même il y a tout un arrière-plan des grandes institutions internationales, de l'OCDE, de l'UNESCO, de l'Union européenne. Et effectivement, je crois que, alors que, disons, l'école dite traditionnelle avant les années 60-70 était avant tout, en effet, centrée sur l'instruction des matières scolaires, elle devient de plus en plus, elle a de plus en plus pour objectif la formation personnelle de la vie individuelle. Bon, alors, oui, ça fait sans doute peur un peu aux enseignants, ça peut faire peur un peu aux enseignants, d'où leur résistance. Ils sont de toute façon mal formés aussi pour assumer ce prétendu nouveau rôle.
Donc vous, ce que vous dites, c'est que cette introduction, en tout cas cette mise en avant des compétences, ça ne change pas seulement la manière d'enseigner, mais ça change aussi ce que l'on enseigne, c'est ça ?
Ça change la mission, je crois que ça change la mission que l'on accorde au système scolaire. Et d'autre part, j'insiste pour souligner le fait que toutes les politiques de socle commun de compétences ont été quand même élaborées dans le cadre d'institutions internationales qui ont des visées quand même essentiellement d'économie de l'éducation. Hein. Dans une société de la connaissance, les systèmes éducatifs sont de plus en plus appelés à former au sens presque pré-professionnel du terme, des individus qui doivent devenir eux-mêmes compétents dans un monde qui bouge, capables de se renouveler, de s'adapter, etc. Et c'est aussi cet arrière-plan politique qui peut être quand même critiqué, explique aussi pour une part la résistance des enseignants, je crois.
Céline Valkoviec, qu'est-ce que vous pensez de cette argumentation-là ? Effectivement, l'OCDE, avec notamment son fameux classement PISA qui essaie d'évaluer les systèmes éducatifs. Alors, il y a beaucoup de critiques par rapport à ce classement, mais c'est vrai qu'on a l'impression que l'école doit d'une certaine manière être rentable, c'est-à-dire que tous ceux qui sortent de l'école doivent pouvoir être utilisés sur le marché du travail et que c'est pour cela qu'on met en avant les compétences.
Moi, je comprends pas bien cet argument-là, parce que quand on regarde le socle commun, c'est un contenu de compétences scolaires. Il n'y a absolument rien de professionnel. Établir, par exemple, des liens entre des œuvres étudiées, je veux dire, on est dans quelque chose de très, très scolaire. Il n'y a rien qui intéresse directement le monde professionnel dans ça.
Ce qui est peut-être un problème, d'ailleurs. Il faudrait quand même aussi que l'école s'intéresse aux finalités professionnelles.
En même temps, quand on regarde le nouveau socle, les propositions qui ont été faites, moi, ce qui m'a marqué, par exemple, c'est vraiment un des fils conducteurs, je trouve, c'est, par exemple, la construction du jugement critique de l'élève. Tout ça, c'est des choses qui prennent du temps. Au contraire, j'ai l'impression qu'on voit de plus en plus l'école comme une espèce de bulle à l'abri un petit peu de la justement des lois de la rentabilité de la société. Et les compétences, elles demandent aussi du temps d'apprentissage pour les élèves, pour construire justement ce jugement critique. Et tout ce qu'on attend dans ce socle qui est finalement assez ambitieux. Donc je comprends mal, moi, cet argument.
Vous ne voyez pas de dimension utilitariste dans cette école des compétences ?
Je le vois, je vois une dimension construction du citoyen. Je ne vois pas, non.
C'est quand même ne pas voir historiquement comment ces notions, les politiques qui vont avec, se sont développées depuis les années même 60-70, ou en tout cas au moins 80. C'est oublié. L'expérience du renouveau pédagogique au Québec, tout ceci a une histoire. Je veux dire, ça sort pas, c'est pas seulement français, c'est pas simplement 10 ans. Hein. Donc, et les discours dans la stratégie de Lisbonne, la logique des compétences est clairement énoncée comme ayant une visée économique. Hein, je veux dire, donc c'est pas alors que le problème en fait de la discussion, c'est que en même temps. La prise en compte de l'activité de l'élève, du développement de ses capacités personnelles, ce sont des combats sur lesquels on peut se retrouver et qui d'ailleurs rejoignent les combats des pédagogies nouvelles depuis les années 60, à visée émancipatrice, etc. Le paradoxe, c'est que elles ont été comme récupérées aussi par le discours, disons pour faire vite, néolibéral. je crois qu'il est, important d'avoir aussi à l'esprit cet arrière-plan politique dont il faut discuter. Quoi.
Alors on va demander son avis à une observatrice un petit peu plus extérieure hein, du monde de l'éducation, en tout cas au niveau de l'enseignement secondaire, Marie Durubella.
Oui, mais justement, en écoutant Julien Gauthier, je me disais qu'effectivement, c'est quand même beaucoup plus ancien qu'on a l'air de dire cette histoire des compétences, même si les mots ont changé. Si on regarde les pédagogies nouvelles, hein, les Freinet, Douai et les autres, hein, ils voulaient dès le début du XXe siècle hein, et ensuite... Hein, casser ce découpage des disciplines pour faire travailler les élèves sur des projets qui aient un sens pour eux. Donc ça, c'est une vieille histoire. Alors, ce qui est plus récent, c'est peut-être effectivement l'évolution qui est citée là, hein, depuis les années 2000, mais qui, pour une part, découle peut-être que l'école est victime de son succès, si je puis dire, c'est-à-dire que l'école, maintenant, au niveau du collège, accueille tous les élèves, ce qui finalement est relativement récent. Il n'y a plus seulement qu'une frange très triée hein, qui va dans l'enseignement secondaire. Donc ils sont là, ils sont tous là. Hein. Leur insertion va poser un problème. On n'est plus à l'époque où les jeunes, même sans formation, se plaçaient comme ça. Donc tout ça va créer une attente utilitariste, effectivement, par rapport à l'école. Mais ce qu'on peut souligner, c'est que, qu'on parle de savoir ou de compétences, les élèves sont utilitaristes. Hein. Les savoirs aussi font l'objet d'investissements utilitaires. Il n'y a qu'à voir ces élèves qui vont faire du latin, par exemple, au début du lycée pour être dans telle classe et après se retrouver dans des filières scientifiques, etc. Donc, les élèves, de toute façon, sont utilitaristes. Donc, je pense que, quelles que soient les critiques souvent fondées qu'on peut faire à l'orientation européenne, eh bien, l'utilitarisme, il est là. Et c'est la rançon du succès de la généralisation des études secondaires.
Céline Valkoviak, une réaction à ce qui vient d'être dit ?
Bah, j'entends, mais je pense que, si vous voulez, les compétences ne se sont jamais déconnectées quand même des programmes de toute façon disciplinaires. Donc, travailler les compétences, ça n'a jamais été autre chose que d'apprendre aux élèves à utiliser les connaissances qu'on leur transmettait.
C'est quoi, par exemple, travailler les compétences ? Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de programme que vous avez été amené à mettre en place dans les établissements où vous travaillez ? Pour essayer justement de faire fonctionner ensemble différentes disciplines sur des projets communs. Ça peut se passer comment, concrètement ? Je sais que vous avez travaillé par exemple sur la question des migrants. C'est ce que vous racontez dans votre livre.
Oui, on a fait beaucoup de choses dans notre établissement. Cet exemple des migrants, on avait abordé cette thématique-là, c'était pour travailler la compétence, par exemple, de citoyenneté, parce que c'est des choses qui sont travaillées à l'école, mais on s'était rendu compte que, très concrètement, nous, il y a quelques années, il y avait eu Notre-Dame de Lorette à Vimy, près de Losangoël, qui avait été profanée, et dedans, il y avait, parmi les gens qui avaient fait ça, il y avait certains de nos anciens élèves. Donc, si vous voulez, on s'était quand même clairement interrogé sur la citoyenneté et la réflexion, le devoir de mémoire qu'on avait construit, qui visiblement n'avait pas d'effet. C'est pour ça qu'on a décidé de monter un projet autour d'une pièce de théâtre qui passait sur les migrants pour finalement ne plus avoir peur de cette discussion à entamer avec nos élèves et leur apprendre finalement à utiliser ce qu'ils avaient vu en géographie, enfin dans plusieurs disciplines.
Ouais, parce que j'allais vous demander, cette compétence de citoyenneté, vous faites appel à quel type de connaissances, à quelle discipline pour l'alimenter ?
Eh bien, il peut y avoir du français parce qu'il y avait eu la lecture de livres de jeunesse, il y a tout le travail, il y a tout le programme de géographie sur la mondialisation et sur les flux des personnes. Je me souviens plus exactement ce qu'il y avait dans ce projet, mais il y a plusieurs disciplines.
Julien Gauthier, qu'est-ce que vous pensez de cette façon-là d'enseigner ? Est-ce que c'est une façon qui peut s'ajouter à une façon plus traditionnelle ou qui doit s'y substituer ou qui est en train de s'y substituer ?
Mais en fait, c'est une très bonne façon de travailler et tout à fait certainement très intéressante. Je n'ai rien à y objecter, mais je pense que le problème, vous l'avez énoncé vous-même, le problème c'est l'articulation justement entre, disons, compétences et connaissances, pour reprendre vos deux termes, ou l'articulation plus générale entre socle et programmes, hein, et les programmes des matières scolaires déterminées. Dans certaines versions, hein, de politique du socle des compétences. Je ne parle pas de celles qui sont mises en place en France. Je reprends l'exemple caricatural du Québec. La logique des compétences a été une machine de guerre contre les disciplines. Hein. Bon, inversement, certains voudraient défendre les disciplines comme des forteresses assiégées par les compétences. Je crois que là, on a deux extrêmes entre lesquels il faut louvoyer. Et de ce point de vue-là, le rapport Boissineau a l'intérêt, justement, de ne jamais opposer, hein, de faire tout ce qu'il peut pour toujours dire qu'on ne peut pas dissocier les compétences des matières scolaires qui sont l'occasion ou le lieu, le milieu même dans lequel elles peuvent se développer.
Bon. Alors, le rapport Boissineau qui a donné, on va dire, les grandes lignes de redéfinition de ce socle commun qui doit être ensuite, donc ces grandes lignes envoyées aux enseignants pour un retour et puis ensuite un décret, mais qui a été critiqué par certains comme étant trop consensuel et ne sachant pas choisir.
Mais là, il faut savoir ce qu'on veut, quoi. On ne peut pas réformer l'école sans un consensus large. Donc, le mérite de Boissineau, c'était d'avoir cherché à avoir un consensus large que le texte reflète à peu près. Après, le texte est très insuffisant aussi, dans la mesure où il laisse complètement ouverte la question de cette articulation entre les matières scolaires et les compétences, ici définies, les 20 compétences définies par le nouveau texte du socle. Donc, en principe, il devrait y avoir derrière un travail matière par matière pour réfléchir dans le détail, comme l'exemple que vous avez pris, à l'articulation possible entre tel ou tel contenu scolaire et telle ou telle compétence, plus ou moins transversale, que ce contenu peut supporter.
Marie Durubella, je voudrais citer quelqu'un que vous connaissez bien, François Dubé, qui dit notamment ceci: les professeurs des écoles se considèrent comme des généralistes, tandis que ceux du secondaire se voient comme des spécialistes, souvent devenus enseignants, par amour de leur discipline. Est-ce qu'on touche là justement à une des difficultés à mettre en place ce fameux socle commun ?
Sans doute, c'est-à-dire qu'effectivement, on a eu l'occasion de constater avec François Dubé, quand on a travaillé ensemble sur les collèges, hein, consultation de 2000, hein, que les enseignants du secondaire mettaient souvent en avant leur identité disciplinaire. On avait des professeurs de mathématiques qui nous disaient « je suis mathématicien ». Et ça, c'est quand même assez français. Ça renvoie à notre système de formation ou d'absence de formation, d'ailleurs, pédagogique, hein, des enseignants. Dans la plupart des pays qui nous entourent, voisins, les enseignants trouvent normal d'être des éducateurs. Par exemple, quand ils surveillent les cours de récréation et interviennent quand les élèves se bagarrent, alors qu'en France, le réflexe le plus courant, c'est d'aller chercher le CPE, le conseiller d'éducation. Donc il y a dans notre pays, mais c'est vraiment inscrit dans notre système de formation des maîtres, hein, cette dichotomie entre l'instruction et l'éducation. Donc ça va être difficile. Quand vous disiez au début de l'émission, voilà, depuis 2006, le socle n'a pas fait ses preuves, oui. 2006, c'est hier, hein, et le temps de l'éducation est un temps long. Le renouvellement des enseignants, si l'on change cette manière de les former, est lui-même assez long. Et je vous dis, c'est quand même relativement révolutionnaire, hein, de dire qui doit éduquer. Est-ce que finalement des experts d'une discipline doivent être les seuls éducateurs, par exemple? C'est aussi une question qu'on peut se poser. Sont-ils toujours compétents pour éduquer? Voilà des questions qui sont dérangeantes et on ne va pas les résoudre par un rapport.
Mais est-ce que ça veut dire, si on pousse un peu votre logique, Marie Durubella, enfin votre logique, c'est pas seulement la vôtre, mais que par exemple un professeur de philosophie, tiens, puisqu'on en a un dans ce studio ce soir, un professeur de philosophie donc doit être aussi un éducateur, mais peut aussi être amené à intervenir sur une discipline historique, géographique, artistique. Est-ce que c'est cette logique-là aussi qui doit être visée ?
Comme le soulignait ma collègue, dans la mise en œuvre du socle commun, nécessairement, il y aura du travail en équipe, du travail interdisciplinaire. Or, ça aussi, c'est très difficile. On n'apprend pas, et on n'apprend pas d'ailleurs aux élèves eux-mêmes à travailler en équipe, et on n'apprend pas non plus, hein, toute la logique des concours après que rencontrent ces bons élèves qui vont devenir enseignants, c'est de l'individuel. Hein. Donc, on n'apprend pas du tout à faire confiance, par exemple, à faire venir un autre enseignant dans sa classe. C'est quelque chose qui est très difficile dans notre pays, que ce soit d'ailleurs y compris à l'université, j'en ai fait l'expérience. Donc, c'est très difficile. On est dans une logique individualiste, de chacun est l'expert et libre dans sa classe, hein, on doit pouvoir fermer sa porte et on est complètement libre de faire ce qu'on veut dans sa classe dès lors qu'on est compétent. Donc c'est vraiment un renversement de cette manière traditionnelle de concevoir le métier qui est à l'œuvre.
Vous racontez justement, Céline Valkoviac, dans votre livre, que vous avez été confrontée à ces résistances-là, c'est-à-dire de profs qui ont une démarche assez individualiste, en tout cas qui est vraiment dirigée par l'approche essentiellement disciplinaire. Comment est-ce que vous avez réussi, si tant est que vous l'ayez réussi, à aller au-delà de ces résistances ?
Alors, il y a plusieurs choses. Vous avez dit, c'est vrai, quand on devient enseignant, on est enseignant d'une discipline. Mais actuellement, ce qui se passe, c'est qu'on est devenu des enseignants d'un pôle disciplinaire. Et ça, c'est-à-dire, ben, moi, je suis enseignante de français, mais maintenant, je fais partie du pôle humaniste. C'est-à-dire, c'est bien un pôle disciplinaire que je vais partager avec mon collègue d'éducation musicale, d'art plastique et d'histoire. Je pourrais même dire que je fais partie d'un pôle linguistique, parce que je pourrais tout à fait venir interroger aussi mes apprentissages linguistiques avec mes collègues d'autres disciplines.
Donc, si demain, vous dites la prof d'art plastique ou la prof de langue est absente, allez la remplacer. Non. Vous dites oui, je peux.
Non, parce que c'est pas la remplacer, au contraire, c'est croiser nos spécificités disciplinaires. Alors, dans notre établissement, on a trouvé un moyen c'est grâce à ça qu'on avance. On a des cours interdisciplinaires dans certaines classes, c'est-à-dire que chaque semaine, on est au moins deux enseignants. Et l'objectif, c'est de croiser nos expertises. Avec ma collègue d'éducation musicale, je peux absolument pas prendre sa place. Par contre, on prévoit des cours où on montre aux élèves comment la musique va soutenir la narration dans un film. Et là, on est en train de développer une compétence de jugement critique de nos élèves, de futurs spectateurs. Voilà, il n'y a jamais été question de remplacer les collègues.
Vous écrivez dans le livre, il est intéressant d'ouvrir les portes des classes et d'inviter des collègues et d'autres élèves, oui, d'autres élèves à observer certaines séances de classe ou certaines productions de nos élèves. Le regard extérieur d'une tierce personne permet d'identifier des zones de lacunes transversales. En même temps, on comprend qu'avec ce genre de proposition, ça puisse un peu crisper certains enseignants, non ?
On s'est rendu compte que dans nous, il y avait beaucoup des difficultés des élèves qui résidaient en fait dans tous ces apprentissages invisibles, on a appelé ça comme ça, qui est dans le no man's land disciplinaire. Je peux donner un exemple très simple. On s'en est rendu compte avec Don Francis Blancard, avec qui j'écris ce livre, mais avec qui je travaille aussi au quotidien. Il demande à ses élèves de 4e de faire un récit d'expérience en technologie. Et moi, j'ai la classe, hein, de cette classe de 4e, et je me dis, mais qui leur a appris à faire un récit d'expérience ? C'est un récit relativement codifié. Nos élèves qui ont des difficultés langagières, ce qui se passe, c'est que comme la maîtrise de la langue est un obstacle, ils n'arrivent pas à prouver qu'ils ont des compétences de technologie. Donc là, on travaille ensemble sur ça.
Julien Gauthier, est-ce qu'en insistant sur les compétences et sur la transversalité, il n'y a pas un risque de dévalorisation du métier d'enseignant, en tout cas de la spécialisation qui peut être celle de...
Franchement, je ne crois pas. D'une part, je ne voudrais pas passer moi ici pour un défenseur des savoirs dans leur forme traditionnelle. Et d'autre part, je voudrais aussi qu'on n'exagère pas la crispation des enseignants. Je veux dire. Donc, elle est certainement plus grande au lycée. Enfin, plus grande. Les enseignants sont sûrement plus centrés sur leur discipline au lycée qu'ils ne le sont au collège.
Parce qu'il y a aussi une hiérarchie chez les enseignants. C'est pas la même chose d'être prof de lycée que d'être en collège, que d'être
je crois, une raison peut-être aussi. Les savoirs dispensés au lycée sont des savoirs plus spécialisés. Donc, ils sont en effet plus approfondis sur une discipline. Et on ne peut pas maîtriser non plus 50 disciplines, ni même 2 ou 3. C'est déjà difficile d'en maîtriser à peu près une. Bon. Mais je voudrais un tout petit peu nuancer le tableau de l'enseignant tout seul dans sa classe, qui ne parle pas avec ses collègues, qui n'invite pas d'autres élèves. Moi, j'invite des élèves. Il y a des élèves d'autres classes qui viennent dans ma classe. Je vais voir, je suis intervenu cette année en mathématiques, j'ai fait venir un prof de physique quand j'ai parlé de révolution copernicienne. Bon, donc en fait, ça existe. Il y a aussi les TPE qui existent encore plus ou moins. Ce n'est pas une très grande réussite, mais ça existe. Donc je crois que le lycée d'aujourd'hui, même le lycée d'aujourd'hui, n'est plus cette espèce de forteresse sanctuarisée sur les disciplines. C'est quand même beaucoup plus ouvert. Hein. Les professeurs ont bien changé. Pour la moitié d'entre eux, ils ont été formés depuis la création des UFM. Donc ils ont eux-mêmes déjà largement intégré tout un ensemble de méthodes nouvelles, ou en tout cas d'orientations nouvelles, qui sont largement diffusées depuis au moins 20 ans.
Marie Durubella, est-ce qu'on n'exagère pas considérablement cette opposition, alors justement, entre des enseignants qui seraient extrêmement rétifs à tout changement et puis d'autres pédagogues qui voudraient absolument de la transversalité aujourd'hui ? Est-ce que ça, c'est quelque chose ?
Oui. Oui, disons que cette opposition, elle a été durcie par certaines polémiques qui se sont emparées de l'aspect politique de la question qui était évoquée tout à l'heure. C'est vrai que si on veut critiquer l'Europe libérale, l'OCDE et ses politiques, on va s'engouffrer dans la brèche. La notion de compétence a été portée par ces organisations internationales. Et puis, c'est facile de se moquer de la compétence, parce que la compétence, après, ça va déboucher sur des dérives en matière d'évaluation. On n'en a pas du tout parlé, mais l'école évalue aussi ce qu'ont acquis les élèves. Et en matière de compétences, c'est extrêmement compliqué. Pour évaluer des compétences, on va les découper en compétences élémentaires qui paraissent parfois ridicules. Hein,
savoir faire livret de compétences qui, paraît-il, est assez compliqué à manier. Enfin, peut-être un peu moins aujourd'hui, mais...
Absolument, c'est très compliqué et c'est facile de critiquer, alors que évidemment, l'évaluation des savoirs, ça paraissait plus simple, on faisait réciter des choses aux élèves et c'était facile. Donc ce que je veux dire, c'est que les compétences complexifient le travail des enseignants. C'est pour ça que je suis d'accord avec nos collègues qui disaient que ça ne va pas dévaloriser le travail, ça le rend plus compliqué, alors que d'une certaine manière, faire apprendre du savoir, à la limite, une machine peut le faire. Hein. Enfin non, je dis ça, j'exagère, non, je reviens sur ce que j'ai dit, c'était une erreur. Enfin, en tout cas, ça paraissait plus simple, c'était plus balisé. Là, on est dans un domaine complètement ouvert. Et c'est compliqué, donc ça attire toutes les critiques polémiques, toutes les moqueries même. Mais la critique est aisée, alors qu'on a affaire à une vraie question.
La question de l'évaluation, effectivement, elle est essentielle, Céline Valkoviak.
Oui, tout à fait. Je crois que, juste pour revenir un tout petit peu sur avant, rapidement, les enseignants, ils sont crispés parce qu'ils sont aussi démunis. Il y a un manque de formation, c'est-à-dire que, quelque part, construire des compétences avec les élèves, ça demande des dispositifs pédagogiques adaptés à ça. Et évaluer par compétences, ça demande également d'être formé. Les enseignants, dans beaucoup d'établissements, essayent encore de transformer des notes en compétences. Il est plus intéressant de finalement voir les spécificités de chacune des deux évaluations, parce que c'est quand même ça qui se passe actuellement. On a un double système d'évaluation au collège.
Mais ça paraît aberrant, justement, d'avoir un double système d'évaluation. Est-ce qu'il ne faudrait pas en avoir un ? On ne pourrait pas imaginer quelque chose qui permette d'évaluer en même temps les connaissances et les compétences, puisque les deux notions ne sont pas incompatibles. Pourquoi est-ce qu'on a deux systèmes d'évaluation ?
Parce que pour l'instant, on nous demande toujours des notes aussi. Hein. C'est-à-dire que là, on n'a pas tellement le choix sur ça. Donc, par exemple, la restitution des connaissances peut tout à fait être évaluée et on peut tout à fait y mettre une note. Par contre, à partir du moment où on va mettre l'élève face à une situation complexe de résolution de problèmes, où il a un choix dans les démarches, une liberté de cheminement et où la production qu'on attend, elle n'est pas forcément formatée, mettre une note, ça devient beaucoup plus compliqué. On va donc devoir chercher d'autres indices pour évaluer ses acquis et là, les compétences sont tout à fait adaptées. Pareil pour toute la pédagogie de projet, par exemple.
Julien Gauthier.
Oui, en tout cas, pour répondre en partie à votre question, dans le rapport Boissineau est évoqué, c'est même sorti avant le rapport, l'idée de fusionner en fait hein, l'actuel brevet des collèges avec l'actuelle validation du livret de compétences de fin de collège. Bon, en même temps, le rapport Boissineau ne précise absolument pas comment s'opérerait cette fusion et on ne sait pas si ce sera remplacé en fait le brevet des collèges par une évaluation uniquement par compétences ou un mixte des deux ou que sais-je encore. Bon. La question de l'évaluation, il y a un problème de fond, c'est qu'est-ce qu'on évalue exactement quand on évalue des compétences. Et au fond, ce que vous avez dit vous-même montre la difficulté d'une évaluation par compétences, parce que si l'élève est dans une situation problème complexe, dans laquelle il peut choisir les méthodes pour résoudre ce problème complexe, quel problème complexe, il faudrait savoir lequel, comment va-t-on évaluer, qu'est-ce que vaudra cette évaluation et qu'est-ce que vaudra en plus la comparaison d'une évaluation à une autre entre deux élèves ou entre deux établissements? C'était un autre problème que j'aurais voulu éventuellement soulever au passage, c'est que la question des compétences, si elle n'est pas davantage fixée à un niveau, disons, national, risque quand même de se traduire par une très grande différenciation des établissements qui vont chacun trouver leur manière. Vous avez constitué des pôles. À ma connaissance, ces pôles ne sont pas des directives réglementaires. Vous les avez constituées par une discussion sur place.
Bon. Le système de notation n'est pas non plus une science exacte.
Non, il n'est pas une science exacte et à mon avis, il est très défectueux à tout point de vue et surtout, il est beaucoup trop massif. Mais je crains que le développement de l'évaluation par compétences pourrait aussi conduire, en tout cas, ce n'est pas une certitude, mais pourrait conduire à une évaluationnite encore plus profonde que c'est le cas aujourd'hui. Surtout si on maintient les deux. Mais même si on ne maintient pas les deux, puisqu'il faut suivre l'élève chaque année pour voir comment il progresse dans telle ou telle compétence définie.
Alors, on a beaucoup parlé, c'est normal, hein, ce soir, des enseignants, des difficultés ou pas à justement aller vers cette nouvelle façon de travailler, des demandes des élèves, mais on n'a pas tellement parlé des familles. Marie Durubella, est-ce que la résurgence de ce conflit entre une école des connaissances et une école des compétences, elle n'est pas liée aussi aux demandes qui sont formulées par les familles aujourd'hui par rapport au système éducatif ?
Les familles, à l'heure actuelle, par rapport au système éducatif, elles ont des attentes relativement utilitaristes, hein, pour revenir à ce que j'évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire elles s'attendent avant tout à ce que l'école donne à leur enfant un titre scolaire qui lui permettra de s'insérer. Et ça, effectivement, ça crée une tension pour l'école absolument désastreuse. Hein. Vous savez, l'historien qui s'est intéressé à la pédagogie, Antoine Pro, avait cette formule, enfin, de mémoire, je cite, hein, « Si les diplômes ne servaient à rien, ça changerait le climat des classes. » Et effectivement, la pression utilitariste qui pèse sur l'école durcit tous ces débats, justement fait apparaître des clivages, là il ne devrait pas y en avoir, mais les familles elles attendent avant tout ça. Alors qu'on leur parle de compétences ou de savoir ou de c'est pas forcément leur problème, mais elles, pour revenir à la question de l'évaluation, elles s'attendent à ce que leur enfant soit évalué de manière relativement objective, hein, la même chose d'un endroit à l'autre, et que cette évaluation soit perçue avec sérieux par les employeurs pour qu'ils en tirent des conséquences en matière de recrutement. Donc, la demande des parents, c'est quand même des évaluations objectives sur quoi, à la limite, sur n'importe quoi, j'exagère bien entendu, mais sur quelque chose qui se fasse l'objet d'une reconnaissance sociale et économique. Hein. Et ça, ça crée une tension assez dure.
Alors, comment réconcilier, si tant est qu'il faille le faire, connaissance et compétences ? Je voudrais vous faire écouter, pour terminer, vous aurez l'occasion de réagir brièvement ensuite, une interview de Jérémy Lachal, il est directeur de Bibliothèque Sans Frontières, qui vient de lancer la version française d'un site qui s'appelle codecademy.com. C'est une plateforme qui permet l'apprentissage des rudiments du langage informatique. C'est un site qui est accompagné d'un programme de formation, Les Voyageurs du Code, formation qui est dispensée notamment dans les bibliothèques. Et pour Jérémy Lachal, justement au nom de la maîtrise de nouvelles connaissances et de nouvelles compétences, eh bien, il verrait bien ce programme faire son entrée à l'école.
Ce qui est assez intéressant, c'est que la plateforme n'exige pas des professeurs d'être des as de l'informatique ou de la programmation. Il faut qu'ils soient des médiateurs numériques. Ils n'ont pas besoin de connaître tout ce qui est enseigné à travers la plateforme. Alors, ce dont on s'aperçoit, c'est que quand on le fait chacun dans son coin sur la plateforme, c'est gratuit, hein, vous pouvez vous y connecter, mais c'est moins enthousiasmant et c'est moins enrichissant que de le faire ensemble en groupe. Et c'est pour ça que ces ateliers dans les écoles ou dans les bibliothèques, ça a du sens parce que on va apprendre ensemble. Et du coup, on va pas développer simplement des connaissances au code, mais on va aussi développer des compétences sociales. Alors la vraie question, c'est de se dire, est-ce que finalement, c'est quelque chose qui va être enseigné par le prof de techno ou le prof de maths et qui va encore être une discipline de plus de mathématiques, scientifiques, etc. Ou est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être enseigné par le prof de français ou le prof de langue ? Parce qu'on l'aborde sous une autre forme en disant, c'est une langue nouvelle. C'est une langue nouvelle qu'il va falloir apprendre parce qu'au 21e siècle, si vous ne parlez pas cette langue, le code, eh ben vous ne pourrez pas vous débrouiller dans la vie.
Jérémy Lachal avec Mélanie Chalandon. Céline Valkoviak, est-ce que cette arrivée comme ça de nouvelles disciplines peut permettre aussi de changer la façon de mener les enseignements à l'école ?
Tout à fait. Là, ce qu'il disait sur les travaux de groupe, c'est relativement intéressant parce que le problème des plateformes, c'est aussi ne pas mettre l'élève seul devant le numérique parce qu'on apprend aussi finalement en se confrontant aux autres. Et la classe, elle est aussi un lieu d'apprentissage. Donc intégrer des plateformes comme ça, oui, pourquoi pas.
Est-ce que ça ne devient pas un peu une injonction aujourd'hui de plus en plus forte, Julien Gauthier, c'est-à-dire d'intégrer ces nouvelles technologies ? Il faut absolument que l'école soit adaptée au monde extérieur, au monde d'aujourd'hui, au monde de demain. Il y a quand même beaucoup ça, c'est ce qu'on entend quand même.
Si, alors, pour le dire rapidement, si, je crois qu'on peut d'ailleurs discuter de la valeur. Il y a des compétences qui portent sur les nouvelles technologies dans le projet de socle là. Il y en avait déjà avant, l'OCDE, etc. Mais énormément l'accent là-dessus. Hein. Donc on peut en effet s'interroger là-dessus et considérer que c'est quand même très historique, très, très récent, très nouveau et que ça n'a peut-être pas à rentrer dans l'école. Cela dit, en fait, ce n'est pas mon point de vue. Je pense que l'école doit se saisir du numérique. On a écrit beaucoup de choses là-dessus sur Scolaire. Mais en revanche, des expériences comme celles qui viennent d'être racontées sont tout à fait intéressantes et sûrement utiles. Mais moi, je pense quand même qu'il y aurait un intérêt à enseigner l'informatique, plus exactement le langage informatique, de manière un peu, justement, un peu comme une matière scolaire. La question de savoir qui le ferait est une question qu'il faut en effet résoudre. Il y a eu un rapport récent qui prônait effectivement l'enseignement du code informatique de manière très, très générale, pas de tel ou tel langage, hein, mais de comprendre les procédures algorithmiques du langage informatique, étant donné l'importance de l'informatique. Mais ça n'avait pas un but essentiellement compétentiel, hein, c'était bien plutôt une formation théorique.
Il faudra leur trouver une petite place dans les programmes scolaires, ce qui n'est pas forcément extrêmement facile à mener. Ce sera l'objet justement de travaux dans les prochains mois. Merci beaucoup en tout cas à tous les trois d'avoir participé à cette discussion. Julien Gauthier, donc scolé.fr, c'est le site de votre revue. Marie Durubella, merci beaucoup et merci aux équipes de France Bleu à Dijon de vous avoir accueilli. Céline Valkoviak, Réussir l'école du socle chez ESF éditeur. Demain, nous parlerons de la réforme territoriale. Qui détiendra le pouvoir demain? C'est la question que nous poserons.